Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Pobody Oulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire, tentative de putsch au Burkina. 8 militaires ont été mis aux arrêts aujourd'hui. Deux terroristes tués, 6 militaires blessés et des engins explosifs neutralisés. C'est ce qui ressort du bilan dressé par l'armée burkinabé lors de ses opérations de sécurisation du 2 au 9 janvier. 9 nouveaux ambassadeurs ont présenté ce matin leur lettre de créance au président du Faso. Parmi eux, Lamine Ouattara, le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Cannes 2021, champion en titre, les Fenecs d'Algérie ont été tenus en échec 0-0 par la Sierra Leone. Et sanctions de la CEDEAO sur le Mali, la star ivoirienne du reggae, Alpha Blondie, dénonce une décision arbitraire, vous l'entendrez dans ce journal. On parlera également des sanctions de la CEDEAO avec notre invité du jour. Il s'agit du professeur Ousseini Ili, agrégé de droit public à l'université Thomas Sankara. Son analyse de la situation après ce journal. Je vous l'annonçais en titre, 8 militaires ont été arrêtés pour un projet de putsch. C'est ce qu'indique une note du parquet militaire de Ouagadougou rendue publique ce mardi 11 janvier. Les précisions avec Lamine Traoré.
8 militaires ont été interpellés et interrogés pour un projet de déstabilisation des institutions de la République, a annoncé mardi le tribunal militaire. Le 8 janvier 2022, le parquet militaire de Ouagadougou était saisi par dénonciation des membres de la bande d'une allégation du projet de déstabilisation des institutions de la République que projetait un groupe de militaires, selon le communiqué du parquet militaire. Nantis de cette information, nous avions instruit la police judiciaire militaire d'ouvrir une enquête circonstanciée pour élucider cette affaire. A poursuivi le communiqué du tribunal militaire qui précise qu'à la date du 11 janvier 2022, 8 militaires ont déjà été interpellés et interrogés pour les besoins de la cause. À l'issue de cette étape, une suite sera donnée à cette procédure conformément aux règles de procédure dans le strict respect de la présomption d'innocence et du droit de la défense, a rassuré le parquet militaire. Selon Jeune Afrique, le lieutenant-colonel Zungrana, jusque-là chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando, fait partie des soldats interpellés ce 10 janvier par la gendarmerie nationale. Âgé de 41 ans, le lieutenant-colonel Zungrana est soupçonné d'avoir fomenté une tentative de putsch. Plusieurs autres militaires auraient été interpellés, avait rapporté le journal Jeune Afrique, citant plusieurs sources sécuritaires. Selon JIA, le général Barthélémy Aimé Saint-Poré, ministre des Armées, a fait savoir que les autorités communiqueront bientôt officiellement sur cette question.
Merci à Lamine Traoré. Et les forces armées nationales ont fait le point des opérations de sécurisation du territoire national du 2 au 9 janvier dernier dans les provinces du Loroum, du Yatanga, du Yaga et de la Nyanya, des activités menées au sein des groupements de forces qui font, entre autres, état de deux terroristes neutralisés par l'armée dans la zone de Titao. Les détails avec Abdulaziz Zoulabou.
C'est le 4 janvier 2022. Suite à une reconnaissance aérienne dans la zone de Titao, qu'un binôme terroriste armé a été neutralisé sur l'axe Titao-Rambo par les FDS. Le 6 janvier, une unité du détachement militaire de Solé en patrouille à Dambatao, toujours dans la province du Loroum, a été la cible d'une attaque à l'engin explosif improvisé avec un bilan de 4 blessés. Ils ont été évacués et pris en charge par les structures médicales des forces armées nationales. Le 7 janvier, deux engins explosifs improvisés ont été découverts dans les environs de Tangai, province de Yatenga, grâce à une alerte donnée par des VDP. Des équipes de Waiguya ont été déployées pour procéder à la neutralisation. Toujours le 7 janvier, les forces armées nationales ont assuré une mission d'escorte et de sécurisation au profit de techniciens d'une compagnie de téléphonie dans la province du Yaga. Cette mission a permis à ces compagnies d'effectuer des opérations de maintenance de leurs équipements dans la zone. Et puis le 9 janvier, un des véhicules d'une unité d'intervention a sauté sur un engin explosif improvisé alors qu'elle effectuait une mission d'escorte dans la province de la Nyanya. Deux militaires ont été légèrement blessés, a terminé l'armée.
Aziz Zoulabou pour ce point des opérations de sécurisation du territoire national menées par l'armée du 2 au 9 janvier. Après la sécurité, la justice, procès Thomas Sankara, l'audience est poursuivie ce matin devant le tribunal militaire avec l'audition de témoins absents du territoire burkinabé. C'était par visioconférence face à la caméra Moussa Diallo et Stephen Smith. Chalda pour le compte-rendu.
Nous sommes en 1985, l'année à laquelle l'adjoint au commandant de la gendarmerie, Moussa Diallo, parvient à obtenir une preuve d'un coup d'État qui se préparait en Côte d'Ivoire par un opposant burkinabé, le capitaine Jean-Claude Camboulé, qui était soutenu par Oufoué Boigny, président de la Côte d'Ivoire à l'époque. Adjoint au commandant de la gendarmerie à l'époque, Moussa Diallo, partisan de la révolution et ami de Thomas Sankara, lui rend compte de ce qui se passait en Côte d'Ivoire et Sankara répondit « Oufoué Boigny est très naïf, il ne sait pas que Blaise Compaoré est mon frère, il ne me tuera pas. » L'audition de Moussa Diallo se poursuit. À l'époque, j'ai réussi à mettre le domicile de Blaise Compaoré sous écoute, affirme le témoin qui poursuit qu'en 1987, un leader des étudiants du nom de Jonas Sommé a appelé Blaise Compaoré et dit ceci « Mon capitaine, il est temps de passer à l'acte. » Mais selon le témoin, Blaise savait qu'il était sous écoute et il a simplement répondu « Ok, ok, on verra ça après. » Pour la énième fois, Moussa Diallo s'est rendu au bureau de Thomas Sankara pour lui faire écouter la conversation entre Jonas Sommé et Blaise Compaoré, mais Sankara a refusé de le recevoir. Ce n'est que le soir qu'il m'a appelé à son domicile. Arrivé, je lui ai tendu l'audio d'écouter. Il a refusé et je lui ai dit « Blaise prépare un coup contre toi ». Il me répondit « Je suis au courant de tout », rassure le témoin Moussa Diallo au tribunal. Les événements sont vite passés selon le témoin qui raconte que le 15 octobre, il était dans son bureau avec un militaire nigérien du nom de Moussa Ganda qui demande à parler au général Gilbert Diendéré. Et lorsqu'il a eu le général Gilbert au téléphone pour Ganda, la communication fut coupée et il réessaya à nouveau pour joindre le général à partir du standard du Conseil de l'Entente et il fut surpris par la réponse du standardiste. Satire, satire ici au conseil. Et j'ai compris que le général a raccroché son ami nigérien Moussa Ganda pour s'occuper au plus important, a affirmé Moussa Diallo qui conclut à la suite que le coup d'état d'octobre 1987 a eu pour concepteur Blaise Compaoré, le superviseur, le général Gilbert Diendéré et les exécutants Hyacinthe Kafando et ses hommes. Quant à l'audition du journaliste américain Stephen Smith, il a eu les derniers aveux de Thomas Sankara à 48 heures avant sa mort. J'étais basé en Côte d'Ivoire. Lorsque Sankara m'a appelé un jour, il me dit de venir rapidement au Burkina, qu'il ne maîtrisait plus la situation, qu'il voulait me montrer un document dans lequel il se prépare à remettre le pouvoir à ses proches. Je n'ai pas pu me rendre et 48 heures après, j'apprends sa mort. S'indigne le journaliste qui décide de venir au Burkina pour mieux comprendre auprès de Blaise Compaoré qui lui dit de faire simplement son travail. C'est ainsi que le journaliste de RFI, Stephen Smith, va réussir à avoir une interview avec Boukari Kabore, dit les Lions, une interview que Blaise Compaoré n'a pas du tout appréciée et le fait expulser hors du Burkina. Il n'avait plus le droit de mettre pied au Burkina dans le cadre de son travail. C'est après 6 années plus tard qu'il a été admis à rentrer au Burkina.
Chalda, après cette phase des auditions des témoins, le tribunal militaire va procéder demain à la présentation des pièces à conviction avant l'audition des experts. En bref, 7 ans de prison ferme pour avoir battu sa conjointe à mort. C'est le verdict d'un procès à l'ouverture de la session criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Débutée hier, ces assises criminelles vont se poursuivre jusqu'au 20 janvier prochain à Dédougou. Au total, ce sont 41 accusés, dont 4 détenus, qui comparaîtront lors de ces 10 jours de procès pour des faits de crime de sang. 9 nouveaux ambassadeurs ont présenté ce matin leur lettre de créance au président du Faso. Ce sont les ambassadeurs des Pays-Bas, du Canada, du Ghana, de la Suède, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, de la Roumanie, du Koweït et de la Norvège. Qui sont-ils? La réponse avec Yaya Diomandé.
La matinée de ce mardi à la présidence du Faso a été ponctuée d'audiences avec 9 nouveaux ambassadeurs accrédités. Première à se présenter au président du Faso, Esther Jonathan Elisabeth Loffet est la nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas auprès du Burkina Faso. Juriste de formation, elle était précédemment conseillère justice et sécurité à Kampala, chef adjoint de la section économique à Berlin et ambassadeur adjoint à Khartoum et à Bujumbura. Après elle, c'est son homologue du Canada, Lee Anne Christine Herman, qui a remis sa lettre de créance au président Roch Kabore. La coopération entre le Burkina et le Canada couvre entre autres les domaines de la sécurité, de l'accès universel à l'éducation de base, du renforcement du pouvoir des femmes et des filles et celui des liens commerciaux et économiques. Titulaire d'un master en commerce international et d'un diplôme de troisième cycle en relations internationales de l'Académie diplomatique de Vienne, Lee Anne Herman a été conseiller politique en République de Côte d'Ivoire de 2006 à 2009 et était depuis 2019 consul et délégué principal au commerce à Düsseldorf en Allemagne. Elle a pour résidence Ouagadougou. À sa suite, c'est Boniface Gambila Attakbila, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana auprès du Burkina, qui a été reçu par le président du Faso. L'arrivée de ce diplomate ghanéen s'inscrit dans la continuité de la coopération entre les deux pays fondée sur le partage d'un même espace ethnoculturel et agroécologique. Boniface Gambila Attakbila a passé une grande partie de sa carrière professionnelle à l'autorité du fleuve de la Volta et au programme national du Service national de développement. Auto-représentant d'un pays limitrophe, celui de la Côte d'Ivoire, Lamine Ouattara, ce diplomate a la charge de participer au compte de son pays au développement de la coopération ivoirio-burkinabé datant de belle lurette. Lamine Ouattara a occupé plusieurs hautes fonctions, dont celle de conseiller de 2016 à 2019 et de chargé d'affaires par intérim de mars 2019 à janvier 2020 de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Il a aussi pour résidence Ouagadougou. Les ambassadeurs Maria Sargren du Royaume de Suède, Adraman Sidibet de la République de Gambie, Nicolas Nastas de la Roumanie, Vega Sunsbo du Royaume de Norvège et Mohamed Abdallah Al-Khalidi de l'État du Koweït ont aussi remis leur lettre de créance au président du Faso, Roch Kabore.
Yaya Diomandé, santé à présent. Au cours de la dernière semaine épidémiologique de l'année 2021, le Burkina a enregistré 1005 cas de COVID-19 avec 15 décès. Face à la recrudescence, le ministre de la Santé sollicite l'accompagnement des autorités religieuses pour la reprise de l'adoption des gestes barrières dans les lieux de culte et surtout la vaccination des fidèles. C'est pour porter ce message que Charlemagne Ouédraogo était ce mardi 11 janvier, successivement au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina et de la Fédération des églises et missions évangéliques. On fait le point avec Corinne Sawadogo et Judith Traoré.
Protéger 11 millions de personnes contre la COVID-19 par la vaccination d'ici la fin de l'année 2022. C'est l'objectif du ministère de la Santé et pour son atteinte, l'implication des leaders religieux est nécessaire. Au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina et de la Fédération des églises et missions évangéliques, le ministre de la Santé, Charlemagne Ouédraogo, sollicite l'implication de ses responsables.
Que ce soit au niveau de la FAIB, que ce soit au niveau de la FEME, nous avons rencontré des responsables qui sont déjà vaccinés et qui ont des exemples pratiques et des témoignages à faire pour montrer qu'ils ont eu raison de faire la vaccination contre la COVID-19.
Du côté des autorités religieuses, l'engagement est pris de travailler de concert avec le ministère de la Santé pour sensibiliser les fidèles au respect des gestes barrières et surtout à se faire vacciner.
Il est vraiment très important que le ministre et le ministère de la Santé puissent en tout cas lancer cette riposte-là au niveau de la population, évidemment en venant notamment aux autorités coutumières et religieuses, pour que, également à notre tour, que nous puissions interpeller nos fidèles sur l'ensemble du territoire pour que nous puissions faire face justement à cette pandémie.
Au Burkina, 4 types de vaccins contre la COVID-19 sont disponibles, à savoir le Johnson & Johnson, le Pfizer, Sinopharm et Sinovac. Au cours des échanges, Chalmay Ouedraogo a rassuré quant à leur fiabilité. Dans les jours à venir, le ministre de la Santé prévoit également s'entretenir avec le Moro Naba, le cardinal Philippe Ouedraogo et le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger.
Lundi, la junte guinéenne s'est désolidarisée de la position de la CEDEAO concernant les sanctions contre le Mali. Le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères conformément à sa vision panafricaniste. Cette décision de la junte au pouvoir à Conakry fait réagir la classe politique. Depuis Conakry, suivez la correspondance de Abdoulaye Siré Diallo.
Au niveau de la classe politique guinéenne, la réaction du CNRD est saluée par certains acteurs. Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral, justifie ce soutien par l'incohérence de la CEDEAO dans le traitement de certains cas.
La CEDEAO, dans ses sanctions contre le Mali, est allée un peu trop loin. Je pense que si la CEDEAO agissait comme ça face au président qui tripatrie leur constitution, il n'y aurait aucune constitution tripatriée en Afrique de l'Ouest. De savoir, pour parler de mon pays, la Guinée, que tant de personnes aient été tuées en Guinée et qu'à chaque fois, l'attention de la CEDEAO a été attirée jusqu'à un pourrissement réel de la situation et que ce soit aujourd'hui cette CEDEAO qui se montre en gendarme, il y a de quoi se poser des questions sur le sérieux de nos institutions que nous mettons en place.
Pour Dr Edouard Zotomo Pogomou, membre de l'Alliance pour l'Alternance démocratique, ces sanctions contre le Mali sont des messages pour la Guinée, d'où la réaction du CNRD.
Moi, je pense que justement, la réaction que nous sommes en train de vivre, c'est une sorte d'anticipation. Parce qu'au-delà du Mali, c'est la Guinée qu'on est en train de voir, qu'on le veuille ou pas. Alors, s'il y a des sanctions qui doivent tomber sur le Mali, ben, nous sommes en train de vivre pratiquement les mêmes choses. Au moins, eux, ils avaient proposé une date qui a été rejetée. En Guinée, aujourd'hui, nous n'avons aucune idée d'une date de transition. Ça n'existe pas. On ne connaît même pas. La réalité, c'est qu'on ne connaît même pas la composition du CNRD. C'est ça la vérité.
En Guinée, compte tenu des relations historiques avec le Mali, sans applaudir la réaction du CNRD, plusieurs personnes invitent les militaires maliens à dialoguer avec la CEDEAO.
Toujours sur les sanctions de la CEDEAO, le président de la transition au Mali, Assimi Goïta, appelle justement au dialogue, même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation, a déclaré le chef de la junte dans un discours diffusé à la télévision publique. Autre réaction, celle de la star ivoirienne du reggae Alpha Blondy. En tant qu'Africain et ambassadeur de la CEDEAO pour la paix en Côte d'Ivoire, je me permets de m'indigner d'une décision aussi arbitraire contre un peuple frère. Le peuple malien ne mérite pas ça, a déclaré Alpha Blondy dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Écoutez un extrait de ses propos.
Votre réaction, on dit en anglais, vous avez overreacted. Quand ils ont fait le coup d'état contre Ibeka, vous n'avez pas eu cette réaction aussi violente, aussi radicale. Vous aurez du mal à faire comprendre aux gens que c'est la France qui vous a dicté cette attitude par rapport à son problème avec le Mali et Wagner. Vous aurez du mal. C'est très maladroit de votre part. Les Maliens n'ont pas à payer le prix de votre incapacité à gérer un problème africain, un problème domestique. Fermer toutes les frontières, les bloquer à la BCAO, c'est pas juste. Vous êtes nos responsables. Ça vous coûtait quoi si vous vouliez aider vraiment le Mali? Que chaque pays, les 14 pays ou 15 pays, que chaque pays donne 1000 soldats pour venir aider la junte militaire à se débarrasser des djihadistes.
Et puis un mot de sport, l'Algérie, championne d'Afrique en titre, a été tenue en échec 0-0 ce mardi par la Sierra Leone lors du premier match du groupe E dans la Coupe d'Afrique des Nations. Après une première période décevante, les Fennecs ont buté sur des Sierra Leonais et un gardien, Mohamed Camara, intraitable. Dans le groupe D, l'Égypte, le plus titré d'Afrique avec 7 trophées, a été battu par le Nigeria grâce à un but de Samuel Chukwueze. En première période, le Nigeria s'impose 1-0.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Professeur Ousseini Ili, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment est-ce que vous trouvez les sanctions de la CEDEAO contre le Mali?
C'est un peu dommage ce qui arrive au peuple malien, parce que je crois que ce que l'on qualifie de putschistes ne sont pas arrivés là par hasard. Ils y sont arrivés compte tenu d'un contexte particulier pour essayer de redresser une situation. Mais en même temps, il faut savoir que nous sommes dans une communauté qui s'appelle la CEDEAO, qui a ses textes, qui prohibe les coups de force, les coups d'État. Et donc, la CEDEAO est plus ou moins dans son rôle. Mais la batterie des sanctions qui a été prise là, à mon avis, ce sont des sanctions très sévères.
Avec la fermeture des frontières avec les pays voisins, rappel des ambassadeurs, sur le plan économique et sécuritaire, quels sont les impacts de toute cette batterie de sanctions de la CEDEAO sur le Mali?
L'impact va être économique d'abord, compte tenu du fait que les avoirs vont être gelés, le Mali n'aura plus accès à ses comptes au niveau de la banque centrale, y compris les banques privées n'auront plus accès à leurs comptes à la banque centrale. Cela va naturellement affecter sérieusement l'économie malienne sur le plan financier, mais également sur le plan commercial à travers les échanges quotidiens qu'il avait avec les autres pays. Mais l'impact économique ne va pas être seulement que pour le Mali, ça va être également pour les autres pays. Si je prends le cas du Burkina, le Mali est notre troisième partenaire commercial, de sorte que la fermeture des frontières va également impacter notre économie, même si ça ne va pas être de la même ampleur que le Mali, puisque le Mali est totalement isolé. Sur le plan sécuritaire, le terrorisme est là, et on a besoin d'une coopération entre les pays pour pouvoir arriver à bout de ce phénomène-là. Il y a le G5 Sahel, le Mali est membre, et si aujourd'hui le Mali ne coopère plus, cela veut dire qu'on est en grand danger, puisque on a une frontière de plus de 1000 km avec le Mali. Alors si du côté malien, il n'y a rien qui est fait, ça peut être un terreau beaucoup plus favorable pour les terroristes, pour mieux s'organiser et puis attaquer les autres pays.
Avec l'Algérie et la Mauritanie qui restent ouvertes au Mali, le souffle peut-il venir de là pour les populations qui vont subir les affres de cette escalade?
Naturellement que la gente ne va pas rester les bras croisés. Donc, elle va essayer par des moyens d'essayer de les contourner. Vous avez parlé effectivement du Mali à d'autres frontières, avec l'Algérie, avec la Mauritanie. Mais également, il peut activer d'autres réseaux internationaux, d'autres grandes puissances. Et on parle de la Russie, il y a la Chine. Donc là, elle va essayer de résister, de contourner les sanctions, mais à court terme.
Est-ce que la junte peut quitter la CEDEAO ou créer une nouvelle monnaie?
Bien sûr. Si les deux camps, personne ne met de l'eau dans son vin, ça peut aboutir au retrait du Mali de la CEDEAO. Ce qui peut être souhaitable, c'est une réforme de la CEDEAO. Mais un retrait de la CEDEAO, ça va affecter beaucoup le Mali, puisque vous savez que la CEDEAO a un certain nombre de politiques quand même qui avantagent les populations, la libre circulation des personnes et des biens. Mais pour l'UEMOA et pour le CFA, ça pourrait être une bonne chose, puisque de toute façon, depuis un certain temps, il y a une certaine opinion qui milite pour la fin du CFA. Une sortie du Mali pourrait constituer un exemple, on verra. Si les Maliens réussissent sans le CFA, ça pourrait galvaniser les autres et dire qu'on peut réussir hors du CFA.
Le pouvoir de la transition parle d'instrumentalisation de la CEDEAO par des puissances extra-régionales. À quoi la junte fait-elle allusion selon vous?
Tout le monde sait que derrière ces sanctions, certainement que les Français ont joué un rôle, puisque les Français sont farouchement opposés à certaines politiques de la junte au Mali, qui bousculent leurs intérêts géostratégiques au Mali. Donc certainement la junte parle de la France.
Alors professeur Ili, quelle peut être l'issue de ce bras de fer entre les putschistes maliens et la CEDEAO?
Je pense que les gens vont revenir à la raison. Parce que comme je l'ai dit, un effondrement du Mali n'est dans l'intérêt de personne, ni du Mali, ni des autres pays de la CEDEAO, notamment les pays voisins, que nous sommes, le Burkina et autres.
Et c'est ici que prend fin ce journal réalisé par Edwige Tienrebego. Merci de votre aimable attention.
Radio Omega, l'info en direct.